Bonne fête de la Saint-Antoine du désert.
Il y aurait des choses à
Il y
dire
a
là-dessus, hein.
une espèce de légende qui voudrait que, à la fin de sa très très longue vie, Saint-Antoine du désert soit parti d'Égypte pour venir jusque sur les bords du Rhône, par ici, dans l'Isère. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans les églises de la région Rhône-Alpes, il y a parfois deux à trois statues de Saint-Antoine du désert, en habit de moine tout noir, avec le cochon à ses côtés, puisque Saint-Antoine est représenté avec ce symbole de tous les vices, de toutes les tentations qu'il a pu expulser du désert. Donc le 15 janvier, nous fêtions Saint Paul ermite, lui aussi le premier ermite dans la tradition spirituelle en Égypte, puis Saint Antoine aujourd'hui, qui, par la puissance de leur prière, de leur don d'eux-mêmes au Seigneur et de leur ascèse, de leur mortification, de leur jeûne, ont expulsé les puissances des ténèbres qui habitaient les déserts, en particulier donc ce désert d'Égypte, berceau du monachisme chrétien. Et cela nous rappelle ce que nous disions la semaine dernière sur la conviction qu'a l'Église que le monde est aussi rempli de puissances ensorcelantes qui cherchent à s'annexer la personne humaine et qu'il faut que l'Église pratique des exorcismes pour consacrer des espaces à la rencontre avec Dieu, au culte liturgique, des espaces propices pour le recueillement, pour le don de soi, pour la solitude avec le Seigneur. Ces exorcismes qui sont réclamés si souvent, par exemple ici à Ars, dans la basilique ou au confessionnal, il y a des pèlerins du monde entier qui, étant fascinés, étant touchés par la personne de Saint Jean-Marie Vianney et cette puissance que le Seigneur lui avait donnée sur tous les esprits des ténèbres, viennent demander des grâces d'exorcisme, l'exercice de ce charisme d'exorcisme. Mais l'exorcisme, s'il est nécessaire, n'est pas suffisant pour faire d'un lieu un lieu saint, un lieu sacré. C'est la question que se pose à lui-même Romano Guardini dans son livre sur la messe. Comment un lieu peut-il être sacré? Et il reprend cette grande conviction que aucun lieu n'est sacré par lui-même. Il y a des lieux immenses, des espaces qui font frémir tellement ils sont marqués par les empreintes de la grandeur de Dieu, des espaces qui nous parlent de la beauté du Seigneur, de sa douceur. Il y a des lieux extrêmement impressionnants, mais aucun lieu n'est sacré naturellement. Aucun être créé ne peut être sacré par la force de sa propre nature. Aucun être créé ne peut servir immédiatement de lieu à la sainteté de Dieu. Pour qu'un lieu devienne saint, il faut que Dieu en personne vienne le sanctifier. Et c'est cela le mystère de la consécration de nos églises, de nos chapelles et de nos oratoires. Dieu en personne est venu consacrer ces espaces. Dieu vient sanctifier un lieu en y accédant lui-même, en devenant présent et merveille des merveilles, en y établissant sa demeure. Encore une fois, c'est une des merveilles de la méditation sur l'Ancien Testament que de découvrir ce que peut bien être ce signe du temple qui sera un des tout premiers écrits du cardinal Jean Danielou et dont il dit que c'est dans ce livre-là, le signe du temple, qu'il a dit pratiquement tout ce qu'il avait à dire dans le domaine de la spiritualité et de la théologie. Voilà, des amis sur la terre, Guardini, Danielou, et des pensées qui se rapprochent pour nous dire à quel point le mystère du temple, le signe du temple, nous permet de comprendre, comme nous le disions la semaine dernière, pourquoi il est tellement légitime de se sentir bien dans une église, de se sentir profondément apaisé, restauré, fortifié, simplement par le fait de demeurer un certain temps dans une église. Lorsque nous disons que Dieu vient établir sa demeure dans un lieu et qu'ainsi un lieu va devenir un lieu saint, nous connaissons l'objection, Dieu n'est-il pas omniprésent au ciel, sur terre et en tout lieu? Oui, Dieu est omniprésent. Dieu remplit tout, Dieu soutient toute chose. Dans cette vision-là, Dieu n'habite pas un lieu déterminé, mais chaque lieu devient possible, devient existant en Dieu. Tout cela est vrai. Tout cela n'est pas que de la pure philosophie, c'est aussi dans la révélation biblique, c'est présent dans les livres de sagesse qui nous permettent de comprendre comment la philosophie rencontre la foi d'Israël. Comment Dieu peut apposer sa signature sur certaines des élévations philosophiques les plus immenses de la pensée humaine. Tout est en Dieu, nécessairement et immuablement, parce que cela a été créé par lui. Saint Paul, dans les Actes des Apôtres, dans le discours qu'on a de lui, à Athènes, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17e, s'approprie cette parole des poètes: En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Le moindre grain de poussière ne pourrait subsister dans l'être s'il n'était lui aussi rempli de Dieu. C'est cette méditation qui va conduire Romano Guardini a une remarque passionnante et qui volontairement veut nous désarçonner. Alors cette remarque, on la trouve dans un des livres philosophiques un peu ardu, voire très ardu, de Romano Guardini. En 1939, il publie un ouvrage qui s'appelle Monde et personne, le monde et la personne. Et il cherche à nous réveiller en affirmant, dire de Dieu qu'il est le tout autre n'est pas pertinent. Dieu n'est pas l'autre par rapport à moi, il est Dieu. Donc, si nous avons l'habitude d'utiliser cette expression pour parler de Dieu, le tout autre, une expression qui vient aussi des pères de l'Église du IVe siècle en Asie mineure, nous sommes un peu remis en question. Non, Dieu n'est pas autre par rapport à moi. Parce que Dieu est mon créateur en permanence, je dois dire d'abord, Dieu n'est pas moi. Il est une personne, je suis une personne. Mais je dois rectifier cette pensée en affirmant, mais Dieu n'est pas non plus un autre par rapport à moi. Dieu, finalement, profondément, n'est ni un autre, ni le même que moi. C'est la méditation à partir de saint Augustin qui nous permet de voir que dans la pensée du panthéisme, qui dit que nous sommes tous des petits morceaux de Dieu, disséminés dans la création, dans la pensée du panthéisme, il y a quelque chose qui est une parcelle de vérité. Dieu est plus intime à moi que moi-même, dira saint Augustin dans sa profonde méditation sur la présence de Dieu. Et à cause de cela, je ne peux pas dire en permanence que Dieu est le tout autre. Dieu est tellement proche de moi. Dieu est tellement présent à moi-même. Et d'abord pour me donner l'existence. C'est une partie de la grande vérité de la révélation de la Bible, et l'autre va consister à dire, pourtant, parce que le réel est complexe, Lorsque quelqu'un vous répète trop souvent c'est très simple, je vais vous expliquer, tout est simple, nous devons être en éveil. Oh là là, mais qui peut dire que c'est très simple? Non, ce qui est vivant, ce qui est divin, ne peut pas être uniquement simple. C'est à la fois simple en soi et à contempler assidûment, longuement, posément et spirituellement, c'est infiniment complexe. Eh bien, ce mystère de la présence de Dieu et de Dieu présent dans un lieu n'est pas simple, n'est pas bêtement simple. Et une des œuvres de celui qui fait des ouvrages de spiritualité, c'est de balayer les fausses évidences qui empêchent la contemplation. Et dire Dieu est le tout autre semble bien faire partie de ces fausses évidences. Dieu est partout, et pourtant, il y a une présence, une demeure de Dieu véritable et réelle à tel endroit. Et c'est là qu'intervient l'Ancien Testament à nouveau, qui veut nous raconter saintement l'histoire de la venue de l'Éternel, du Tout-Puissant, la venue de celui que nous appelons Dieu, l'histoire de la présence de Dieu auprès des hommes, de son gouvernement miséricordieux et rempli de sagesse, de sa royauté et du destin que son amour a assumé avec nous. Et lorsque nous passons dans le Nouveau Testament, nous découvrons et nous découvrons inlassablement qu'il y a un établissement ultime et essentiel de Dieu avec nous, qu'il y a une présence immédiate et une habitation de Dieu parmi nous, et qu'il s'agit du Christ. Le Christ est cette présence différente, cette présence véritable et réelle de Dieu. Le début de l'évangile selon saint Jean, qui a fait nos délices pendant le temps de Noël et de l'Épiphanie, nous répète avec sa saveur incomparable: le Verbe était dans le monde a été fait par lui, le monde ne l'a point connu, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il a planté sa tente au milieu de nous, il a planté son tabernacle, son temple de rencontre. Nous avons vu sa gloire, la gloire de l'unique du Père, plein de grâce et de vérité. Nous affirmons, en lisant chaque passe de l'Évangile, là où était Jésus, Dieu était. C'est une affirmation tellement simple et qui illumine tellement notre méditation des évangiles. Là où était Jésus, pendant son pèlerinage terrestre, Dieu était. Et il était d'une façon qui n'avait jamais existé auparavant et qui n'existera plus après l'ascension. Cette demeure de Dieu, cette présence de Dieu, elle existera d'une façon différente pour notre plus grande joie, notre plus grande consolation et notre sanctification, surtout grâce au sacrement. Lorsque Jésus entrait dans le temple de Jérusalem, c'était la présence de Dieu. Lorsqu'il entrait dans une maison de famille ou qu'il marchait sur la route, alors Dieu était là. Et il était là d'une présence si particulière, si expresse, que nous devons préciser, dans chacun des lieux où il se trouvait, il était de manière telle qu'à ce moment-là, il ne pouvait se trouver ailleurs. C'est le temps du pèlerinage terrestre du Seigneur Jésus, le temps avant les sacrements. Il y avait cette présence du Christ à tel endroit. Il ne pouvait être à la fois dans le temple et devant le portail du temple. Il ne pouvait pas être à la fois dans la maison de Capharnaüm et sur le lac. Le Seigneur Jésus nous a fait comprendre ce mystère d'une présence qui est vraiment totalement humanisée et qui nous permet de saisir à quel point il s'engage dans notre espace. Il s'engage, il s'implique dans notre espace, dans notre vie matérielle. Après l'ascension, après la Pentecôte, pour que la rédemption puisse être communiquée à tous les lieux et tous les temps jusqu'à la consommation des siècles, la présence du Seigneur va être autre. Et c'est cette nouvelle présence du Seigneur qui va déclencher l'apparition de nos églises, de nos chapelles et de nos oratoires. Cela semble peut-être curieux, peut-être enfantin, peut-être grossier de parler ainsi, qu'il ne pouvait pas être à la fois dans la maison à Capharnaüm et sur le lac, mais c'est la pure vérité. Une vérité qu'il est bon de méditer de temps en temps. La vérité est toujours la vérité. Elle signifie que quelque chose de réel et d'essentiel se manifeste à moi pour être vu, pour être compris, pour être nourrissant, et si telle est la volonté de Dieu, pour être confessé, pour être proclamé, pour être prêché. La vérité est toujours la vérité, mais il y a des degrés différents de vérité. Et heureusement, parce que avec le secours du Saint-Esprit, petit à petit, nous grimpons jusqu'au sommet de la vérité, jusqu'à être possédés par la vérité tout entière. Jamais nous ne posséderons la vérité. Avec la grâce du Seigneur, nous pouvons vraiment être possédés par la vérité. Il y a des degrés de vérité plus élevés que d'autres, des vérités plus nobles que d'autres. C'est la grande méditation inlassable pendant toute sa vie de Romano Guardini sur la hiérarchie. Dans la création, il y a une hiérarchie. La charité est au-dessus de la politesse. De la même manière, certains anges sont au-dessus des autres dans la création invisible, et cela ne nuit pas à l'amour mutuel, cela ne nuit pas à la liberté, c'est comme cela que la création communique la vie éternelle. Eh bien, il y a une hiérarchie des vérités, et dans cette hiérarchie des vérités, celle qui dit que Dieu est omniprésent, qu'il règne à chaque endroit de sa création, qu'il porte toute sa création par sa puissance et par son amour, c'est une grande vérité, une vérité admirable. Mais il y en a une qui est plus noble et plus sainte. Il y a cette vérité qui nous est révélée et qui nous dit que Dieu est véritablement venu dans le Christ. Que là où se trouvait le Christ, Dieu était présent d'une manière nouvelle et spéciale. D'une manière que notre pauvre petite intelligence humaine ne peut pas saisir. Parce que elle n'arrive pas à accorder cette vérité plus haute avec cette autre vérité que Dieu est omniprésent. Nous n'arrivons pas à tenir les deux ensemble. Comme nous n'arrivons pas à tenir ensemble que Dieu est une seule essence, une seule substance divine et trois personnes distinctes. Nous n'arrivons pas à tenir les deux ensemble. Notre intelligence doit simplement recevoir ces lumières. Et elle doit ensuite les laisser agir dans la profondeur vivante de notre âme, agir comme agit un mystère à la fois infini et un mystère rempli de l'amour de Dieu. La manière de faire étant tout simplement, comme pour le mystère de la Sainte Trinité, tout simplement, c'est une façon de parler, je le reconnais, je viens de dire que c'est simple, non, ce n'est pas simple. La manière de faire, la plus habile, étant de méditer tranquillement sur l'essence divine, Dieu unique, et ensuite de méditer dans un autre moment sur les trois personnes distinctes et les relations même que nous pouvons avoir avec chacune des personnes de la Sainte Trinité. De manière semblable, méditer paisiblement sur cette grande vérité saisissante de l'omniprésence de Dieu, Dieu qui n'est pas tout autre, mais qui est tellement présent qu'il est proche de moi, et en même temps, Dieu qui est à tel endroit précis, et qui est davantage présent à tel endroit précis, parce qu'il l'a voulu, et parce que là, cela est bon pour nous, parce que cela est sauveur pour chacun d'entre nous. En prenant des temps différents de méditation et de prière contemplative sur des sujets différents, nous arrivons à ne pas complètement perdre notre pauvre petite intelligence et à la laisser se nourrir. Lorsque nous parlons du lieu saint, de cet espace sanctifié, paisiblement, nous sommes en train de méditer sur ce mystère de l'incarnation du Verbe et ce mystère de la présence particulière du Seigneur Jésus à tel ou tel endroit de sa création. C'est de ce mystère de la présence particulière, la présence véritable et hors du commun du Seigneur Jésus à tel ou tel endroit, que va nous venir la réponse à la question que nous nous étions posée la semaine dernière, pourquoi l'église de Pierre est-elle vraiment la maison de Dieu? Et pourquoi est-ce un lieu saint? Pourquoi? D'abord parce qu'elle a été consacrée par celui qui en a eu le pouvoir, successeur des apôtres. C'est-à-dire que cette consécration par l'évêque a isolé le lieu de la trame générale de la nature, du monde des hommes. Ce lieu a été soustrait aux usages et aux finalités d'existence quotidienne, et il a été destiné à Dieu et exclusivement à Dieu. Ce lieu devient la propriété de Dieu, l'expression de sa transcendance, le symbole de sa sainteté et le rappel de sa souveraineté. Mais cela n'est encore qu'un préliminaire. Comme nous disions tout au début, l'exorcisme n'est qu'un préliminaire à cette sanctification du lieu. L'église, la chapelle ou l'oratoire ne sont rendus vraiment saints que par la célébration de la messe. Dans la consécration de la messe, le Christ vient lui-même et il devient présent dans ce lieu d'une manière absolument unique. Il vient demeurer au milieu de son Église avec un grand E. Il vient avec son amour rédempteur et avec le signe transcendant de ce que Guardini appelle son destin de sauveur. C'est très difficile de traduire le mot qu'a utilisé Guardini en allemand. On peut dire destin, destin, destiné. En tout cas, c'est quelque chose qui est de cet ordre-là. Il vient impliquer sa destinée de fils éternel de Dieu et de sauveur dans un lieu extrêmement précis. Et ensuite, dans la communion, le lieu va être le lieu où nous pouvons nous nourrir de cette présence sainte, et le lieu va en acquérir une grandeur encore plus forte. L'Église est le lieu de cette habitation de la messe. De temps en temps, pour reprendre ces pensées saintes, c'est une très bonne préparation à la messe. De me dire, voici le lieu saint où je me tiens moi aussi, le lieu où il viendra, ici, où il va célébrer son sacrifice. Il va demeurer et il va se donner en communion. Eh bien, de telles pensées peuvent recueillir notre âme et vaincre la paresse spirituelle.
Voici Florence, vous êtes à l'antenne avec le Père Nicolas Sautreau. Posez-lui votre question.
Oui, bonjour Père.
Bonsoir.
Ce qui m'est venu à l'instant, c'est qu'est-ce que vous pensez des lieux justement consacrés et saints qui deviennent des lieux publics, je dirais voire complètement païens, hôtels, maisons personnelles, concerts, etc. Moi personnellement, ça me touche énormément. J'ai du mal à imaginer que ça puisse devenir des lieux totalement, je dirais, profanes. Et j'aurais voulu avoir votre avis sur ce que vous venez de dire, ce qui me paraît tellement important.
Il y a certainement une réponse très positive à cette réalité à laquelle nous sommes confrontés, nous n'avions pas été depuis des siècles et des siècles, c'est la construction et la consécration d'autres lieux, de nouveaux lieux. La fête qu'il y ait, si on veut, des églises qui meurent, c'est peut-être affectivement et sentimentalement difficile à vivre, comme la perte d'un être cher, mais de la même manière que de nouvelles générations d'enfants doivent surgir dans une société, de la même manière, si nous prenons les moyens pour construire de nouveaux lieux, et pour demander ensuite et les exorcismes et la destination exclusive et la consécration du Seigneur, alors les choses sont moins dramatiques. Même si les lieux sont plus petits, même s'ils sont vraiment à d'autres endroits, il y a toujours la possibilité d'offrir au Seigneur des lieux qui ne lui ont été jamais consacrés. Alors nous portons la peine dans notre cœur. Mais si nous ne faisons que être dans la peine, nous ne faisons pas progresser le royaume du Seigneur. Alors qu'il est vraiment bon, à mon avis, de dédier des églises à de nouveaux saints qui n'en ont pas encore et de nouveaux endroits. C'est une manière peut-être un peu trop idéaliste de voir, mais il me semble que c'est comme cela, par exemple, que le pape Jean-Paul II a voulu procéder dans son diocèse de Rome et que le cardinal Lustiger aussi a voulu faire dans son diocèse de Paris.
D'accord.
Si ça répond un peu, ça vous donne un peu la consolation de
oui,
Dieu.
Ça... c'est-à-dire que je comprends effectivement qu'il y a un peu comme les vases communicants, quoi. Je vais être un petit peu simpliste. Alors moi, à mon tour, c'est-à-dire ce qui est perdu d'un côté est donc créé de l'autre. Et donc, apparemment, comme vous dites, exorciser et en même temps reconsacrer, ou consacrer plutôt. Mais le fait de faire, par exemple, je ne sais pas moi, un concert, quel qu'il soit, dans une église, même s'il est d'ordre religieux, avec la présence, est-ce que ça a à voir avec le débat que vous menez? Est-ce que ma question est déplacé ou pas par rapport au thème que vous avez abordé?
Non, pas du tout. C'est simplement une question qui peut devenir très vite polémique. Le droit canonique, le droit de l'Église, d'une manière générale, répond très simplement en disant la destination exclusive de l'Église au culte, à la célébration des mystères et à la prière personnelle. Donc il y a une réponse théorique, générale, qui est d'une limpidité qui s'accorde tout à fait avec la pensée de quelqu'un comme Romano Guardini.
Mais oui.
Et ensuite, il y a la vie telle qu'elle est.
D'accord.
Alors, une fois qu'on est en responsabilité, on se rend compte que les choses sont bien difficiles à vivre dans la charité et dans la volonté aussi de pouvoir évangéliser, de pouvoir communiquer la vie du Seigneur.
C'est-à-dire, j'ai pas tout bien saisi, c'est quoi la place de la charité? Quelle est la place de la charité dans ce que vous dites? C'est-à-dire que c'est d'accepter...
Lorsque vous voulez... assainir une situation, il faut arriver à le faire avec beaucoup de charité. Et c'est ça qui est tellement difficile.
D'accord.
Parce que on ne peut pas retrouver cette vision profondément chrétienne et spirituelle du jour au lendemain. Et c'est que avec la bonté et avec la charité que cette manière de vivre à nouveau à fond le mystère du temple de Dieu et du signe du temple, peut se faire sans qu'il y ait en même temps en face des personnes blessées, des personnes révoltées, et c'est absolument pas ce qu'on cherche.
Ça fait penser un peu au moment où Jésus lui-même entre dans le temple et qu'il chasse les marchands. En fait, les époques n'ont pas tellement changé. Je ne sais pas, mais on se retrouve.
Heureusement, il n'y a pas d'exemple d'église qui serve en même temps de supermarché ou de quincaillerie, au moins en France.
Non.
Donc là, le Seigneur Jésus n'a pas besoin de nous exhorter à faire le grand ménage.
D'accord.
On n'en est pas encore là.
Non, on n'en est pas là. On peut, j'ai vu des choses qui, quelquefois, m'ont un peu surpris de prendre un apéritif en fin
on
de messe.
On peut souffrir avec charité et garder notre grand enthousiasme devant la merveille de l'incarnation du Seigneur Jésus et le fait qu'il nous donne des églises.
D'accord.
Souffrons avec charité.
D'accord, ça me va. Ça me fait du bien. Merci beaucoup.
Que Dieu vous bénisse. Au revoir.
Et merci, vous aussi, au revoir.
Au revoir, Florence.
Au revoir et merci.
Mon cher père, à vous le micro.
La suite, un peu plus loin du livre de Romano Guardini, concerne les obstacles qui nous empêchent de célébrer la messe, de vivre la messe comme nous devrions la vivre et la célébrer. Et là, Romano Guardini, avec l'audace des humbles, nous donne sa hiérarchie. Il nous dit qu'il y a un obstacle majeur, nous en avons déjà parlé, mais s'il y revient, c'est que c'est vraiment important. Il dit « L'obstacle majeur, c'est l'habitude. Voilà. » Il y a une loi fondamentale de notre vie intérieure, de la vie de notre âme, qui est que les impressions s'usent. Les impressions s'usent même très vite. Et une partie de notre manière de vivre la messe est basée sur ces impressions. Une impression vive, être impressionné par la messe. Donc il y a un sens beaucoup trop superficiel, beaucoup trop léger, comme on serait impressionné par un autre spectacle. Et il y a un très beau sens qui vient directement du latin de saint Thomas d'Aquin, qui est le fait d'être imprimé, que la forme de la liturgie vient s'imprimer en nous, paisiblement, respectueusement, mais elle vient vraiment opérer cette imprégnation de notre être. La vie est en même temps une croissance, un devenir, et en même temps un dépérissement permanent. Eh bien, l'impression, dans tous les sens du terme, est souvent forte au début. Elle peut augmenter parfois, surtout avec le soutien de la grâce du Seigneur. Elle peut se maintenir pendant un certain temps, et sans le secours de Dieu, l'impression va dépérir. Celui qui ressent l'impression va ressentir aussi qu'il a usé cette impression, et il peut devenir indifférent. Cela est bien normal lorsqu'il s'agit des contacts furtifs ou fugitifs de la vie quotidienne. Nous ne pouvons pas être impressionnés partout, tout le temps. Le Seigneur a mis en nous cette capacité de détachement, cette capacité d'oubli, cette capacité d'habitude, pour que nous ne soyons pas écrasés par chaque rencontre et par chaque événement. Une impression de la vie quotidienne a joué son rôle pendant quelques minutes, quelques heures, et elle doit céder sa place à l'impression suivante. Mais ce qu'on pourrait appeler la fugacité des impressions, vous vous rendez compte qu'on est à nouveau dans ce que Romano Guardini appelle la psychologie descriptive. Il essaye de décrire la vie spirituelle. Eh bien, cette fugacité, elle devient un malheur lorsqu'il s'agit de choses auxquelles nous ne pouvons pas être indifférents, que nous ne pouvons pas remettre en question, comme la vocation, par exemple. Bien sûr, avec les responsabilités de la vocation, saint François de Sales, dont nous sommes en train de fêter le début du 4e centenaire de l'entrée au ciel, parlerait de la vocation du mariage avec les responsabilités et les obligations permanentes de cet état de vie qu'est le mariage. Cela ne peut pas être remis en question. Dans le cas de ces relations humaines qui ne peuvent pas être rompues, comme celles qui lient les époux dans le mariage. Il y a encore ces relations humaines qu'on ne peut pas remplacer, et même qu'il ne faudrait pas remplacer, et c'est le bel exemple d'une amitié profonde. Comme son grand maître saint Augustin, Romano Guardini est un passionné de l'amitié. C'est quelque chose qui est immense dans sa vie comme dans sa pensée. Une amitié profonde. Eh bien, l'amitié ne doit pas s'user. Ce n'est pas acceptable. Elle ne doit pas dépérir. L'impression de mon ami sur moi ne doit pas s'user. Et j'ai le droit de prendre les moyens pour qu'elle ne s'use pas. Le père Guardini va un cran plus loin et il nous parle de la relation avec nous-mêmes. Nous devons nous prendre comme nous sommes. Nous et le contenu de notre existence. Et nous devons vivre avec nous-mêmes. Vivre avec soi-même. Et cette relation avec moi-même ne doit pas s'user. Je ne dois pas m'habituer à moi-même. En même temps, je dois m'y habituer et je ne dois pas m'habituer à moi-même. Là, on est au maximum de la réflexion dans cette psychologie philosophique, mais on sent l'expérience du priant. Oui, même dans la prière, même dans l'adoration, dans la contemplation et l'oraison, je ne peux pas m'habituer à moi-même. Je dois rester impressionné avant tout par ce que la grâce arrive à faire dans mon âme. Eh bien, cette loi de l'usure des impressions peut être la cause de très très grandes difficultés. Et il y a un devoir spirituel, un devoir chrétien, un devoir évangélique de lutter contre l'usure des impressions. Oui, lorsqu'une activité et nouvelle, lorsque j'y prends beaucoup d'intérêt, je l'exerce facilement. Mais lorsque je l'ai exercée longtemps, elle commence à me peser. Ainsi, être ensemble avec une autre personne est une chose qui semble-t-il remplie de joie, qui vivifie aussi longtemps que l'on découvre chez cette personne des pensées inédites ou des attitudes inattendues, de la nouveauté. Mais dès qu'on connaît mieux cette personne, et c'est quand même la merveille de l'amitié, et que l'on commence à prévoir ses réponses, même ses questions, même ses réactions, ses attitudes, il y a le risque que l'ennui vienne s'installer dans nos relations. Deviner l'autre, c'est une merveille. Mais Romano Guardini nous dit, ça peut aussi conduire à l'usure. Et en ce qui concerne ce qu'on va appeler la fidélité à ma propre personnalité, chacun peut comprendre ce que c'est que le découragement vis-à-vis de mes propres insuffisances et la fatigue de mon propre personnage. Dieu ne se fatigue jamais lui-même. Dieu n'est jamais fatigué de Dieu. Parce que pour lui-même, Dieu est toujours neuf. Et la participation à la vie de Dieu peut conduire à lutter contre cette fatigue. La conclusion pour ce soir, et la conclusion de Romano Guardini, c'est celle-ci. Tout cela est valable pour la messe. Toute cette histoire d'usure, de manque de nouveauté, etc., tout cela est valable pour la messe.